Chers frères et sœurs, c'est dans l'Évangile selon Marc que nous entendrons cette année ce récit qui met en scène Jésus et les disciples pour ce qu'il est convenu d'appeler la scène, ce repas. Et voici comment l'évangéliste Marc nous raconte ce repas que Jésus prend avec ses disciples. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions préparer la Pâque ?» Et il envoya deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre « Est-ce moi ?» Il leur répondit « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va. » Selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois ?» Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Avant de méditer ce texte, je vous propose de prendre votre recueil « Nos cœurs te chantent » et c'est au cantique 266, non pas le 226, mais le cantique 266, que nous allons chanter les strophes 1, 2 et 3. Cantique 266, levons-nous pour chanter.
Thank you.
Prenons place. Chers frères et sœurs, ce repas que Jésus prend avec ses disciples est l'ultime repas de Jésus. Et les évangélistes nous disent que Jésus est tout à fait conscient de cela, conscient qu'il va être bientôt arrêté, et que ce repas est donc le dernier repas, ultime repas de Jésus. Autant dire que ces instants sont nécessairement précieux, ce sont les derniers instants de liberté, et du coup, lire ce récit, c'est lire l'ultime évangile, ce qui pour Jésus constitue le cœur même de ce qu'il désire vivre, le désir profond de Jésus, ou pour le dire dans des termes peut-être un peu plus religieux, le sommet de l'évangile proclamé par Jésus. Et j'aimerais cette année que nous observions tout particulièrement les personnes que les évangélistes ont mises en évidence dans cette assemblée de disciples avec Jésus. Je vais donc relever trois figures sur lesquelles l'évangéliste attire notre attention. La première personne remarquable, c'est évidemment celui qui va livrer Jésus. Et si ici ce n'est pas expressément dit, nous le savons, cet homme, c'est Judas. Judas, dans notre imaginaire collectif, c'est la figure du traître par excellence. À tel point d'ailleurs que son nom a été utilisé pour ce dispositif optique qui permet de trahir l'identité de celui qui se tient derrière la porte. Peu après le repas, Judas est effectivement celui qui va indiquer qui est Jésus à une foule armée d'épées et de bâtons qui va l'arrêter. Mais est-il juste de faire de Judas un traître? Voilà qui me semble plutôt le trait caractéristique de Pierre. J'y reviendrai dans un instant, bien évidemment. Intéressons-nous à Judas. Il est vrai qu'à première vue, il peut sembler évident que celui qui a vendu Jésus est un être cupide, finalement. Un être qui n'a pas hésité à vendre l'un des siens, son maître, pour quelques pièces d'argent. Mais l'évangéliste Matthieu, en nous rapportant qu'il se suicidera au moment même où il apprend la condamnation de Jésus, nous emmène sur une autre voie. Si la condamnation est contraire à ce qu'imaginait Judas, cela signifie que le projet de Judas n'était pas d'échanger la mort de Jésus contre quelques pièces d'argent. La condamnation de Jésus semble même contraire à ce que Judas espérait ou envisageait. Et en bonne logique, cela veut dire que nous devons en tirer la conclusion que Judas voulait plutôt sauver la vie de Jésus. Pour expliquer cela, je vous propose un petit détour par le livre de la Genèse. Nous sommes au chapitre 37. Nous y lisons l'histoire de Joseph, l'un des fils de Jacob. Et nous apprenons que ses frères étaient particulièrement jaloux de Joseph. Tellement jaloux qu'ils voulaient s'en débarrasser. Et quelle meilleure solution pour se débarrasser de quelqu'un que de le tuer, après tout. N'entendons-nous pas dans les évangiles qu'il vaut mieux qu'un seul meure plutôt que tout le monde s'entre-déchire? Eh bien, ils envisagèrent donc de tuer Joseph. Mais l'un des frères de Joseph, qui veut le sauver de la mort, trouve une solution, le vendre. Et ainsi, ils en seront débarrassés, mais Joseph aura la vie sauve. Eh bien, ce fils de Jacob qui propose cette idée assez ingénieuse, c'est Judas. Dans les évangiles, l'autre Judas, l'Iscariote cette fois, semble s'inspirer de ce lointain ancêtre. Face à une mort qui semble inéluctable, souvenons-nous que dans les épisodes qui précèdent, Jésus manque de se faire lapider à chaque coin de rue. Eh bien, pour éviter cette mort, Judas semble trouver dans le geste de son ancêtre éponyme un bon moyen de mettre Jésus en sécurité, une sorte de mesure conservatoire. Il sera prisonnier, certes, mais au moins, il aura la vie sauve. Notez d'ailleurs que les évangélistes ne disent pas que Jésus est trahi par Judas. Ils disent qu'il est livré, ce qui est sensiblement différent. Seul problème, c'est qu'en appliquant les bonnes recettes du passé, d'un passé révolu, on ne répond pas forcément de la meilleure façon qui soit au défi du présent. Et en copiant à l'identique la stratégie de Judas, fils de Jacob, eh bien, Judas Iscariote ne préserve pas du tout Jésus, fils de Joseph. Il fait se jeter l'agneau dans la gueule du loup. Autrement dit, Judas est moins la figure du traître que la figure du fondamentaliste, celui qui veut appliquer à la lettre les recettes de son livre sacré, considérant que ce livre a réponse à tout, qu'il suffit de suivre scrupuleusement ce qui est écrit. Mais alors, que signifie que Jésus partage ses derniers instants avec ce Judas ? Eh bien, cela signifie que Jésus indique qu'il ne rejette pas ceux qui ont une vision religieuse diamétralement opposée à la sienne. Deuxième figure emblématique, Pierre. Pierre qui va renier Jésus en dépit de ce qu'il a affirmé. « Oh non, moi je ne te renierai jamais. » C'est le seul d'ailleurs en quelque sorte à renier Jésus, affirmant pas trois fois qu'il ne le connaît pas, qu'il n'a rien à voir avec lui. En ce sens, Pierre trahit Jésus. Mais ajoutons que ce qu'on peut reprocher à Pierre, c'est d'abord une sorte de péché d'orgueil, affirmant que si tous les disciples trouvaient une occasion de chute, s'ils étaient scandalisés, eh bien lui resterait irréprochable. Paradoxalement, Pierre est une figure de la faillibilité totale. À la limite, on pourrait même faire de ce récit le fondement biblique du dogme de la faillibilité. Pierre est une figure de l'intégriste qui considère que sa posture religieuse est incontestable, d'une pureté absolue. Enfermé dans sa certitude, il devient aveugle, aveugle au monde tel qu'il est. Il ne voit rien venir, il est insensible aux frémissements de la vie, incapable de constater les effets négatifs que peuvent provoquer son intransigeance. Il se veut intègre, ce qui est une belle chose, mais en vérité, il se découvre intégriste. Il ne voit plus où est la justice, il n'est plus capable d'un amour agapé, comme cela sera particulièrement visible après Pâques, dans le récit final de l'Évangile selon Jean. Où Jésus s'efforce de lui dire « M'aimes-tu ?» avec le verbe « agapé ». Et lui est incapable de cet agapé-là. Alors ce que nous constatons avec ces deux premières figures, c'est que Jésus s'entoure de la crème du pire. Tout à l'opposé d'une joyeuse réunion entre amis, Jésus convoque un ramassis de personnes dont nous ne voudrions pas à notre table. Car les autres disciples, les fameux oligopistoi, les gens de peu de foi, s'ils n'atteindront pas les sommets d'inhumanité de ces deux-là, ne brilleront pas par une foi lumineuse, selon ce que nous rapportent les évangélistes dans la suite du récit. Ce n'est pas les disciples qui seront à faire le pied de grue le matin de Pâques pour vérifier que la pierre est bien roulée, que le tombeau est vide, que le Christ est bien ressuscité. Bref, la compagnie de Jésus fait vraiment peine à voir. Mais c'est celle que Jésus a choisie pour son ultime moment de liberté. Et si nous ne sommes pas attentifs à cela, alors nous ne passons pas seulement à côté de l'Évangile, nous passons aussi à côté de notre propre vocation chrétienne. Car si nos assemblées sont belles, et ce soir notre assemblée est belle, mais qu'elle ne rassemble que ceux qui nous ressemblent, ce qui est quand même un peu le cas. Si nous ne fréquentons que ceux qui sont fréquentables selon nos propres critères. Alors, nous sommes encore loin, assez loin pour ne pas dire très loin, de ce que pourrait être un christianisme, disons, authentique. Nous constatons ici que la foi chrétienne est une sorte d'option préférentielle pour celui qui est le plus éloigné de l'humanité. Elle n'est pas un club au profil étroit qui tiendrait à bonne distance tout ce qui diffère, ce qui varie, ce qui n'est pas conforme à ce que je suis. Jésus, en rassemblant ceux qui insidieusement lui veulent du mal, atteste de manière radicale qu'il est vraiment venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus n'est décidément pas venu pour ceux qui vont bien, mais pour les malades, pour celles et ceux qui ont des problèmes, de vrais et sérieux problèmes de la vie, avec l'être même de la vie. Impossible dans ces circonstances de se contenter d'une gentille vie ecclésiale entre gens de bonne compagnie, ce qui est bien agréable, mais largement insuffisant au regard de l'Évangile. Impossible aussi de se contenter de relations sociales avec nos clones idéologiques, dans un bon protestantisme qui serait débarrassé de tous les extrémistes et qui finalement trouverait comme critère de validité le seul bon libéralisme authentique, celui qui vibre dimanche après dimanche au foyer de l'âme ou à l'oratoire du Louvre. Jésus, manifestement, ne veut pas de cette pureté religieuse, de même qu'il ne voulait pas d'une pureté sociale ou morale. Notre foi chrétienne nous ouvre à une fraternité vraiment élargie, une fraternité sans frontières, une fraternité qui regarde comme frère non pas celui dont je me sens proche, mais celui dont le Christ s'est approché. J'aimerais maintenant attirer notre attention sur un troisième personnage. Il ne fait qu'apparaître, mais il est décisif. C'est celui que les disciples rencontrent pour savoir où aura lieu le repas. Ici, il s'agit d'un homme portant une cruche d'eau. Beaucoup de commentateurs y ont vu l'allusion à un Essénien, un membre de la communauté des Esséniens. Si tel est le cas, c'est parce qu'il était d'usage à l'époque que les hommes ne portent pas les cruches d'eau. Les cruches d'eau, c'est un truc de femme. Sauf si vous êtes évidemment reclus dans une communauté monastique exclusivement masculine, auquel cas vous devez bien vous préoccuper des tâches habituellement accomplies par la gente féminine. Un homme portant une cruche d'eau. C'est ce que certains appelleraient de nos jours un geste contre nature, quoique la nature n'y soit pour rien. Intéressons-nous aussi au récit de Matthieu, qui dit les choses sensiblement autrement. Et c'est un récit qui ne manque pas d'intérêt. Jésus dit aux disciples « Allez chez un tel », ce qui, dans le texte grec, est assez curieux puisque c'est un mot unique dans la Bible qui est employé, « deina », un mot indéfini, indéclinable, mais qui est quand même précédé d'un article masculin ici dans ce texte de Matthieu. Et c'est pour cela que ça a été traduit par « un tel » le plus souvent. Maintenant, si on fait le lien avec le trouble provoqué par Marc, cet homme qui porte une cruche, cette convocation du féminin et du masculin ensemble, eh bien, peut-être que chez Matthieu, il y a là aussi l'association du masculin et du féminin, cet article masculin, avec ce qui n'est plus un mot indéterminé et indéclinable, mais peut-être bien la mention d'une fille de Jacob, Dina. Dina, c'est cette fille dont on parle aussi dans le livre de la Genèse, cette fois au chapitre 34, un chapitre qui raconte de quelle manière elle a été outragée, bien avant Jésus, et de quelle manière ses frères, pour se venger, vont manier l'épée en tuant largement. Ce dernier repas de Jésus met donc en scène également cette identité évangélique qui transcende le masculin et le féminin, de même qu'il transcende le juste et l'injuste, l'intègre et l'intégriste, le fondamental et le fondamentalisme. Ici, nous voyons quelques traces d'un récit évangélique qui met en scène le véritable visage de l'ultime, qui va largement au-delà de nos lignes de démarcations habituelles, celles derrière lesquelles nous nous réfugions pour nous créer une petite identité bien bétonnée, bien assurée, bien convictionnelle. Cet au-delà des identités reprend finalement l'idéal de Genèse 1, lorsque l'humain est créé féminin et masculin, assumant l'altérité au cœur même de son identité, assumant lui-même le féminin et le masculin. Et peut-être est-ce cela que Jésus nous rappelle, ce que nous sommes appelés à vivre. Non pas vivre contre les autres, mais vivre en plaçant l'altérité au cœur même de notre identité. Vivre sans chercher à tout prix l'altérité pour l'altérité, mais sans craindre l'altérité. Et peut-être que ce récit du dernier repas de Jésus et de ses disciples, propose la communion comme mode de gestion de l'altérité. Là où nous pensons que la communion, c'est le rassemblement de ceux qui ont quelque chose en commun, eh bien Jésus pose que la communion, c'est le rassemblement de ceux qui auront quelque chose en commun. Autrement dit, nous n'avons pas besoin d'être à l'identique de l'autre pour former tout à l'heure le repas, la table autour de cette table de communion. Et puis rappelons-nous de quoi va être constitué ce repas, du pain et du vin. Peut-être est-ce pour Jésus aussi une manière de renouer avec le projet initial de Genèse 1 encore. Cette nourriture végétalienne qui pose que le sang n'a pas besoin de couler pour que nous nous nourrissions. N'ont pas besoin de nous nourrir de la violence pour être. Pas besoin d'un meurtre originel pour fonder une nouvelle civilisation ou, comme avec les enfants de Jacob, pas besoin de faire couler le sang pour assouvir la fureur de vivre qui a été malmenée avec Dinah. Peut-être Jésus renoue-t-il avec cet idéal de Genèse 1 en parlant d'une humanité réconciliée avec elle-même, y compris avec celles et ceux dont a priori on ne voudrait pas. Celles et ceux dont on se demande même s'ils ont droit de citer parmi nous. Et c'est parce que la communion ne va pas de soi, à vrai dire, qu'elle nous est offerte, librement, par grâce, seule, sans mérite aucun de notre part. Comme un chemin d'humanisation, un chemin d'humanité pour tout un chacun, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre étrangeté, ou plus précisément, quel que soit notre sentiment personnel d'une quelconque étrangeté. Amen. Thank you.